VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, très content de vous retrouver pour une demi-heure d'infos et de décryptage de l'actualité. Jacques Aristide et Anne Albertson avec vous en ce lundi 8 juin 2015. Au sommaire, ce matin, au Burkina Faso, trois nouveaux candidats déclarés à la présidentielle d'octobre prochain, dont l'ex-ministre des Affaires étrangères, Ablassé Ouédraogo.
Washington réitère son appel au président rwandais, Paul Kagame, ne briguez pas un troisième mandat en 2017.
Comme le secrétaire d'État, M. Kerry, a dit à plusieurs reprises, nous ne soutenons pas le changement de constitution.
Au Nigeria, deux morts dans un nouvel attentat suicide dans l'État de Borno.
En Turquie, le parti du président Erdogan perd sa majorité absolue au Parlement.
Dans la partie magazine, plein feu sur la troisième enquête démographique et de santé au Togo.
Professeur Kakonu Bukpo, ministre en charge de ce département.
Ces résultats nous sont utiles, notamment dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques, en particulier des politiques en matière de santé.
À venir également, vos rendez-vous avec l'économie et les sports.
Au Burkina Faso, nouvelle candidature confirmée en vue de la présidentielle d'octobre prochain. Ablassé Ouédraogo, ancien ministre des Affaires étrangères du président déchu Blaise Compaoré, devenu l'un de ses principaux opposants, a été investi hier candidat par son parti, le Faso Autrement.
J'accepte avec honneur et humilité la charge que vous venez de me donner, a déclaré M. Ouédraogo devant quelques centaines de délégués réunis à Ouagadougou. Économiste de formation, Ablassé Ouédraogo, âgé de 62 ans, a été pendant 5 ans chef de la diplomatie burkinabé avant d'être nommé numéro 2 de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC.
Monsieur Ouédraogo a pris une part active dans la chute de Compaoré fin octobre dernier. Malgré son prestige, il n'est toutefois pas vu comme l'un des favoris du prochain scrutin, rapporte l'AFP. Il est le cinquième candidat officiellement investi après Bene Wende Sankara, choisi par 9 partis se réclamant de l'idéal du président assassiné Thomas Sankara, et 3 postulants pour des formations mineures. Nous reviendrons sur ces investitures dans notre segment magazine tout à l'heure.
Les États-Unis sont opposé à un troisième mandat du président rwandais Paul Kagame, une position que Washington a adoptée par le passé face à des situations similaires, notamment au Burundi et au Congo-Kinshasa. Le Parlement rwandais s'apprête à examiner des pétitions de nombreux Rwandais appelant à une révision de la Constitution qui n'autoriserait pas le président Paul Kagame à briguer un autre mandat. Nicolas Pineau a recueilli les explications du sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaine Robert Jackson sur le Rwanda.
En ce qui concerne le Rwanda, nous comprenons que 3 millions de personnes ont signé une demande que le Rwanda change sa constitution afin de permettre le président Kagame de se présenter pour un troisième mandat de 7 ans. Nous croyons que la démocratie est mieux avancée à travers le développement des institutions fortes et pas d'hommes forts. Et comme le secrétaire d'État, M. Kerry, a dit à plusieurs reprises, nous ne soutenons pas le changement de constitution afin de permettre une personne ou une partie d'avancer le propre intérêt et pas les intérêts du pays.
Pour parler clairement, Washington n'est pas favorable à une troisième candidature de Paul Kagame pour 2017.
Nous préférons que le Rwanda ne change pas la constitution. C'est ça. Nous croyons qu'une transition démocratique en 2017 serait une bonne chose.
Oui, vous l'avez compris, une révision de la Constitution qui autoriserait le président Paul Kagame à briguer un autre mandat. Vous écoutiez le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Robert Jackson.
Nouvelle attaque dans le nord-est du Nigeria. 2 personnes ont été tuées et 4 blessées dans un attentat suicide commis par une femme kamikaze. C'est ce qu'a annoncé hier la police nigériane, citée par l'AFP. La femme kamikaze a fait exploser samedi un engin artisanal attaché à son corps avec des bandes adhésives le long de la route Baga-Monguno, d'après le commissaire de police de l'État de Borno, Aderemi Opadokun, qui a également fait état d'une autre explosion près d'un checkpoint militaire samedi matin dans le village de Tungushe, au sud-est de Maïdougouri, capitale de l'État de Borno. Les deux explosions n'ont pas été revendiquées, mais le groupe islamiste armé Boko Haram est montré du doigt. Le nouveau président nigérian Muhammadu Buhari, qui est parti hier en Allemagne pour assister au sommet du G7, a fait de la défaite de Boko Haram une priorité de son mandat.
En Algérie, il va falloir attendre quelques mois pour entendre les accusés dans une affaire de corruption impliquant le géant pétrolier Sonatrach. Leur procès prévu hier a été ajourné. Chérubin Dorsil nous explique pourquoi.
Il faut d'abord souligner que ce n'est pas le premier report dans ce procès. Déjà en mars, le juge Mohamed Regad avait dû prononcer un ajournement pour absence de témoins. Hier, des 108 témoins attendus à la cour, une trentaine n'avaient pas répondu à l'appel. Après une trentaine de minutes de délibération, le juge a annoncé le report du procès à la prochaine session qui s'ouvre à la fin de l'été. Les accusés, au nombre de 19, 15 personnes et 4 sociétés, sont poursuivis par devant la cour criminelle d'Alger pour association de malfaiteurs, détournement de fonds publics, blanchiment et corruption. L'affaire tourne autour de 5 contrats entre Sonatrach et une unité algérienne de l'entreprise allemande Funkwalk pour la surveillance d'équipements et les services de protection électronique. Les procureurs italiens mènent une enquête distincte sur la corruption présumée de fonctionnaires de Sonatrach par Saipem, une filiale de la compagnie italienne Eni. La cour a rejeté la demande de remise en liberté de 7 des accusés qui se trouvent en détention depuis plus de 5 ans, ce que dénonce la défense comme une violation de la loi algérienne.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Turquie, le parti islamo-conservateur du président Recep Tayyip Erdogan a essuyé un sérieux revers hier aux législatives. L'AKP perd ainsi sa majorité absolue, détenue depuis 13 ans au Parlement, enterrant de fait ses espoirs de renforcer son règne sans partage sur le pays. Henri Francisque.
Le parti de la justice et du développement AKP est tout de même arrivé en tête du scrutin, mais n'a recueilli que 40,7% des suffrages et 258 sièges de députés sur 550, d'après les résultats définitifs. Ce qui contraint l'AKP, pour la première fois, à former un gouvernement de coalition, rapporte l'AFP. Autre première dans le paysage politique turc, le parti kurde HDP a largement franchi la barre des 10% imposés au parti pour obtenir un siège sur les bancs du Parlement. Avec 13% des voix, il en obtient 79. Le parti social-démocrate CHP et le parti de droite MHP, qui constituent les deux autres principaux concurrents du parti au pouvoir, totalisent 132 et 80 sièges respectivement. Vainqueur de tous les scrutins depuis 2002, le parti AKP se présentait pour la première fois affaibli face aux électeurs, victime du déclin de l'économie et des critiques récurrentes sur la dérive autoritaire de son chef historique. Aucun incident n'a été signalé pendant ces élections législatives.
Un groupe djihadiste a revendiqué hier un tir de roquette à partir de la bande de Gaza qui a atteint samedi soir le sud d'Israël sans faire de victimes. En représailles, l'aviation israélienne a attaqué ce qu'elle appelle une infrastructure terroriste dans le nord de la bande de Gaza. D'après l'AFP, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a de nouveau pointé du doigt le Hamas et a dénoncé ce qu'il qualifie d'hypocrisie du monde. Le Hamas a procédé au cours des dernières semaines à des dizaines d'arrestations dans les milieux salafistes.
Le président Barack Obama et la chancelière allemande Angela Merkel estiment que les sanctions économiques contre la Russie pourront être atténuées seulement si Moscou respecte totalement le cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Les deux leaders se sont rencontrés en marge du sommet du G7 dans un village des Alpes bavaroises, un sommet dont est exclu pour la deuxième année consécutive le président russe Vladimir Poutine, dû à l'annexion par son pays de la péninsule de Crimée. Les 7 participants sont les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Canada et le Japon. Madame Merkel a déclaré à la presse allemande que Moscou devrait être écarté du groupe des 7 à cause de ses actes en Ukraine. Une barrière a été érigée et je vois mal comment elle peut être renversée, a-t-elle dit. De son côté, le président du Conseil de l'Europe, Donald Tusk, a fait savoir que l'UE et les leaders du G7 ne devraient pas vaciller dans leur soutien à Kiev face aux séparatistes pro-russes.
Our group is not only the political or
Donald Tusk a aussi rappelé que le G7 n'est pas seulement un groupe d'intérêts politiques et économiques, mais avant tout une communauté de valeurs, et c'est ce qui explique l'absence de la Russie. Le gouvernement russe a maintes fois démenti avoir offert un soutien quelconque à la rébellion en Ukraine.
Comme chaque matin, un survol à des grands titres de l'actualité économique. C'est la Minute Éco, présentée ce matin par Georges Billon.
Réforme du code minier en République démocratique du Congo. Opérateurs miniers et gouvernement jouent l'apaisement avant d'engager des discussions sur ce projet de réforme controversé. Éric Monga, président provincial de la Fédération des entreprises du Congo pour le Katanga, la grande province minière du pays, souhaite parvenir à un compromis et de saluer la récente décision gouvernementale de demander la suspension de l'examen du test au Parlement. La principale pomme de discorde entre le patronat et les autorités est l'ampleur du durcissement de la fiscalité voulue par l'État. L'enjeu des discussions, dont la date reste à fixer, est de permettre d'augmenter les recettes publiques sans dissuader l'investissement dans les mines, principal moteur de la forte croissance économique que connaît la RDC depuis 5 ans. Standard Bank envisage d'ouvrir au premier trimestre 2016 une nouvelle succursale en Côte d'Ivoire, où le groupe sud-africain, qui est considéré comme le plus grand prêteur de l'Afrique, n'est représenté que par un bureau à Abidjan. Dans une déclaration à Reuters, Hervé Boyer de Standard Bank affirme que le conseil d'administration du groupe a recentré la banque sur l'Afrique. Nous pensons que c'est maintenant le bon moment pour transformer le bureau de représentation en Côte d'Ivoire en une filiale à part entière du groupe, a-t-il précisé. La production pétrolière au Cameroun a franchi la barre de 100 000 barils par jour au cours des 4 premiers mois de 2015, d'après la Société nationale des hydrocarbures. La SNH précise dans un communiqué que cela n'était plus jamais arrivé au pays depuis 2002. Par le passé, la moyenne était de 60 000 barils par jour. L'entreprise publique fait office de bras séculier de l'État camerounais dans l'exploitation et la production pétrolière.
Merci Jean-Roger Billon. Un résumé maintenant des nouvelles sportives dominées par le foot ce matin. Le club sud-africain, l'Orlando Pirates, a pris une option sur la qualification pour la phase de poule de la Coupe de la CAF en s'imposant 2-0 en déplacement à Bamako contre l'AS Kaloum lors des barrages allés. Les Congolais d'AC Léopard ont également effectué un pas important vers la phase de poule en écrasant les Nigérians de Warri Wolves 3-0, tout comme l'Espérance Tunis devant Hearts of Oak 4-0. Élimination en revanche pour l'ASV Club et la SEC d'Abidjan. Mondial des moins de 20 ans, carton plein pour l'Afrique à la phase finale. Ses 4 représentants ont été parachutés au second tour. Il s'agit du Ghana, arrivé premier du groupe B devant l'Autriche, l'Argentine et le Panama. Le Nigeria, champion d'Afrique en titre, deuxième du groupe E. Le Mali, recalé à la 3e place dans la poule D. Après un tirage au sort contre l'Uruguay, passe quand même en tant que meilleur troisième. Idem pour le Sénégal, le match Ghana-Mali est à l'affiche ce mercredi. Une autre Coupe du Monde, cette fois chez les dames. Début difficile hier pour la Côte d'Ivoire. Au Mondial féminin de football à Ottawa, au Canada, la Côte d'Ivoire battue par l'Allemagne, 10-0. Dans l'autre match du groupe B, la Norvège a elle aussi réussi un gros score, 4-0 face à la Thaïlande. 4 matchs au programme ce lundi. Dans le groupe C, les championnes du monde en titre japonaises affronteront la Suisse. Et le Cameroun rencontrera l'Équateur. Et dans le groupe D, la Suède jouera contre le Nigeria et les États-Unis se mesureront à l'Australie. En basketball, les Cavaliers et les Warriors ont eu besoin de la prolongation pour décider d'un vainqueur en finale de la NBA, le championnat nord-américain. Mais dans ce deuxième match de suite, LeBron James n'a pas laissé la victoire lui glisser entre les doigts. James a réussi le 5e triplé de sa carrière pour aider son équipe à l'emporter 95-93 dimanche soir à Oakland pour créer l'égalité un partout dans la série. Tennis pour terminer, Stan Wawrinka a remporté hier pour la première fois le tournoi de Roland-Garros, son 2e titre du Grand Chelem, après avoir gâché le rêve du numéro 1 mondial Novak Djokovic. Le Serbe n'a donc pas pu s'emparer du dernier trophée majeur qui lui manque après avoir été battu en 4 manches, 4-6, 6-4, 6-3, 6-4.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà donc pour le journal. Vous êtes toujours branchés sur la VOA émettant de Washington. Jacques Aristide au micro. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. C'est l'heure maintenant d'entamer la tranche magazine. Cap sur le Burkina Faso pour démarrer. La joute présidentielle du 11 octobre prochain, la première depuis la fin de l'ère Compaoré, s'annonce déjà très disputée vu le nombre de candidats qui ont fait part de leurs ambitions présidentielles. Rien que pendant le week-end écoulé, trois prétendants ont été investis par leur parti, à savoir Ablassé Ouédraogo, président du parti Le Faso Autrement et ex-ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré, Adama Kanazoé, président du bureau politique de l'Alliance des Jeunes pour l'Indépendance et la République, et Jean-Baptiste Natama, ancien directeur de cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine depuis Ouagadougou, le reportage de Zoumana Wonogo.
Le week-end dernier à Ouagadougou, pour nous les hommes de médias, il fallait pratiquement avoir le don de l'ubiquité pour pouvoir couvrir les différentes rencontres politiques d'investiture de candidats. Commençons alors avec le collectif Natama 2015, un regroupement de partis politiques et d'associations proches de l'idéal de Thomas Sankara. Comment alors comprendre qu'il y ait deux candidatures sankaristes alors que Mariam Sankara a donné sa caution au candidat de la convention? Écoutons ce qu'en dit Arnaud Maré, membre du comité de pilotage du collectif Natama 2015.
Pour avoir été un peu proche de la procédure ou du processus qui a conduit à la convention sankariste, je mets des réserves. Maman Mariam Sankara est dans son rôle en ce sens qu'elle emporte sa caution morale à toute initiative, à tout élan qui se réclame de l'idéal sankariste. Elle est parfaitement dans son rôle. Elle aurait pu être des nôtres si elle était encore là, pourquoi pas. Pour nous, choisir d'en appeler à la candidature de Jean-Baptiste Natama, c'est reconnaître que l'homme est un homme de valeur, est un homme du renouveau, puisque nous sommes dans un contexte de renouveau sankariste. C'est en cela que nous estimons que M. Jean-Baptiste Natama est notre candidat qui incarne une alternative viable.
Voici comment Jean-Baptiste Natama lui-même explique sa candidature.
Je suis le candidat du changement. Je le reflète par ma virginité politique qui montre que je suis ce nouveau leader que la jeunesse du Burkina, le peuple du Burkina Faso attend. Le sankarisme, on ne l'a jamais codifié, mais je sais tout simplement que la référence au président Thomas Sankara fait allusion à son comportement, à son style d'action politique. Et peut-être qu'il y aura des similitudes.
Au même moment, l'agir. Alliance des Jeunes pour l'Indépendance et la République a investi Adama Kanazoé pour la course à la présidentielle. Voici ce qui le motive.
Je vais être président pour permettre au Burkina Faso de connaître un nouveau modèle de développement. Un modèle de développement qui sera basé essentiellement sur ses forces. Et sa principale force, c'est son capital humain. C'est cette jeunesse-là, massive. Cette jeunesse-là également qui est une force de travail qu'il faut savoir exploiter pour permettre à notre pays de connaître des vrais pics de croissance. Nous ne sommes pas de ceux qui utilisent la jeunesse comme un fonds de commerce. Nous ne sommes pas non plus venus pour dire au peuple burkinabé qu'il faille mettre le Burkina Faso au service de sa jeunesse. C'est plutôt le contraire. Notre souhait, c'est de mettre la jeunesse au service du développement du Burkina Faso pour notre bien-être à tous.
Au jour d'aujourd'hui, les intentions présidentielles affichées sont au nombre de 8, dont 3 militaires, 4 des partis politiques et un candidat indépendant. Mais les rangs vont continuer à grossir encore, car il reste plusieurs partis qui s'apprêtent à investir leurs candidats. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Week-end mouvementé sur le plan social au Niger. Une marche de contestation a eu lieu samedi dans les rues de Niamey à l'appel d'une quarantaine d'organisations de la société civile. Des milliers de personnes sont sorties pour dénoncer la manière dont les autorités sont en train de conduire les affaires publiques. Gros plan ce matin sur cette manifestation avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Composé essentiellement de greffiers, maillon important dans la chaîne judiciaire, le syndicat national des agents de la justice entend par ce mouvement de grève de 5 jours amener le gouvernement à satisfaire à un certain nombre de revendications de ses membres. Abdoulaye Amadou est le secrétaire général du syndicat.
La réorganisation de la carrière des greffiers, elle a aussi des avantages qu'elle va nous accorder, mais ce qui est important, c'est la réorganisation de la carrière. Tant que le décret d'application n'a pas été fait, ça veut dire que cette loi n'a aucun sens. Le deuxième point, c'est celui relatif au paiement des incidences et des salaires. D'abord, les incidences par rapport aux indemnités et les rappels des salaires des camarades. Il y a aussi les salaires des camarades. Donc, certains ont été nouvellement engagés au niveau donc, de la justice. Il y a leurs rappels des salaires qui sont encore demeurés jusqu'à aujourd'hui incertains. Mais nous avons remarqué qu'il y a certains qui ont été déjà satisfaits. Ce qui veut dire qu'il y a une discrimination à ce niveau.
Malgré le fait que le préavis de grève ait été déposé depuis la semaine dernière, le gouvernement n'a pas daigné appeler les responsables syndicaux à la table de négociation, comme le confirme Chebou Kadadé, secrétaire général à la négociation du Ben SNAJ.
Les négociations n'ont pas marché avec le gouvernement. Il n'y a même pas eu un simulacre même de négociation. Parce que ce qu'ils nous ont proposé, là, ce n'est pas des choses qui peuvent être même connues du public. Ce qui est important que vous dise maintenant, aucun point de la plateforme n'a été satisfait. Et c'est pour cela que nous avons tenu à déposer un nouveau préavis de grève de 5 jours jusqu'au vendredi, que la grève va être exécutée.
C'est le énième débrayage de ce syndicat en l'espace de quelques mois. Il compte rééditer ses mouvements de grève jusqu'à satisfaction de ses revendications. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Direction le Togo à présent. Le pays dispose désormais d'un outil important de planification mis en place grâce à une enquête sur la démographie et la santé publique. Les résultats de cette étude, la troisième du genre, viennent d'être rendus publics un an après son démarrage. De Lomé, le reportage de notre correspondante Kay Lorson.
Les résultats de la troisième enquête démographique et de santé au Togo, EDST3, sont disponibles depuis le début de ce mois de juin. L'enquête qui s'est déroulée de novembre 2013 à avril 2014 a permis au Togo de disposer de statistiques actualisées. Pour le ministère de la Prospective et de l'Évaluation des Politiques Publiques, ces résultats sont d'une importance capitale. Professeur Kakonu Bukpo, ministre en charge de ce département.
Ces résultats nous sont utiles, notamment dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques, en particulier des politiques en matière de santé. Ces résultats permettent aux partenaires techniques et financiers d'évaluer aussi ce qui a été réalisé de positif par rapport aux atteintes des objectifs du millénaire pour le développement. Notre population, qui est très jeune, double tous les 25 ans, ce qui fait que les besoins restent importants.
Réalisé par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, l'EDST3 montre une progression des indicateurs, comme nous le dit Yao Kokungisan, le directeur de cet institut.
Des efforts ont été faits en matière de santé dans notre pays, eu égard aux résultats que nous avons obtenus, et ceci par rapport aux indicateurs que nous avions réalisé en 2010 avec l'enquête par grappe à indicateurs multiples. On peut vraiment dire que c'est satisfaisant en termes de progression. L'enquête EDST a été menée sur un grand échantillon, près de 1000 ménages. On a des taux de réponse qui vont de 99% chez les femmes à 98% chez les hommes et près de 95% chez les enfants.
La troisième enquête démographique et de santé a permis au Togo de faire le point sur l'accès à l'eau potable, la situation sanitaire de la mère et de l'enfant et la prévalence du VIH-SIDA. Nous retrouvons le ministre de la Prospective et de l'Évaluation des Politiques Publiques, le professeur Keko Nubukpo.
Le taux de prévalence du VIH-SIDA est de 2,5%. Des efforts doivent continuer puisque notre objectif, c'est 0%. Il y a également sur le taux de scolarisation primaire un résultat positif, c'est la parité qui est presque réalisée. Il y a un autre élément qui mérite d'être signalé, c'est la baisse du tiers de la mortalité infantile sur la période 2010-2013 et de la mortalité infanto-juvénile. Tout n'est pas rose. À peu près 60% de la population rurale n'a pas accès à l'eau potable.
Pour cet acteur de la société civile, ces nouvelles statistiques vont leur permettre de redéfinir leurs objectifs dans la lutte contre le VIH-SIDA dans le pays. Marc Mondi, président du comité d'action pour la coopération internationale et l'épanouissement de la jeunesse qu'assiège Togo.
nous pourrions définir des stratégies d'action avec des objectifs précis sur les actions que nous allons mener désormais. Et ça va nous permettre, nous, acteurs de lutte contre le sida, de recadrer nos activités. Et au niveau du Conseil national de lutte contre le sida, je crois que ça va être un outil très important pour redéfinir les stratégies d'action et savoir comment faire pour atteindre l'objectif zéro infection.
La dissémination des résultats de la troisième enquête démographique et de santé au Togo a commencé ce jeudi 4 juin 2015 à Lomé. Elle s'étendra sur toute l'étendue du territoire togolais dans les prochains jours. Kyle Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Mali, le directeur national du commerce et de la concurrence, Modibo Keïta, est descendu sur le terrain pour s'assurer que le marché sera bien approvisionné en denrées de première nécessité à quelques jours du début du mois de Ramadan. Il ressort ainsi que le sucre, le lait, l'huile et la farine sont en abondance, alors que pour le riz, de nouveaux stocks devront être commandés à Bamako. Le reportage de Kassim Traoré.
La première étape de cette visite a été le magasin de la société GDCM qui vend du riz, du lait, du sucre, des jus et de la pomme de terre. Modibo Keïta, directeur général de GDCM.
Avec tout ce qu'on vient de voir avec les autres collègues, ce serait un très bon mois de Ramadan. Les gens vont faire le Ramadan dans les quiétudes, dans les tranquillités, dans l'entraide. Aujourd'hui ici on a plus de 40 000 tonnes de sucre, on a plus de 20 000 tonnes de riz. Donc ça c'est au niveau global de tous les Mali. Bon, avec ce que les collègues ont, donc c'est vraiment très suffisant pour plus que le mois de Ramadan même.
Les établissements Mamadou Diarra font la vente du riz et du sucre. Ici, pas d'inquiétude pour le mois de Ramadan qui s'approche. Cheikh Oumar Diarra, directeur général.
Il n'y aura pas de problème dans les marchés. On a amené beaucoup de stocks. Il y a beaucoup de stocks au niveau des magasins. Il y a des camions qui sont en route. Au niveau des ports aussi, on a des stocks là-bas. Donc, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de retour sur le marché. Bon, on approvisionne Bamako dans les régions aussi. Au niveau des Kayes, on a des magasins là-bas. Sikasso, Kouchala, Saint aussi, Ségou. On a des stocks aussi là-bas qui sont disponibles.
Partout où la délégation a passé, des assurances ont été données qu'il n'y aura pas de pénurie cette année, sauf les riz qui posent problème. Modibo Keïta, directeur national du commerce et de la concurrence.
Bon, en ce qui concerne le riz, le stock disponible aujourd'hui sur le marché local est de 44 570 tonnes. Le prix du riz importé est de 300 à 375 francs le kilogramme. Quant au riz local, il est vendu entre 350 et 450. Et c'est au niveau du riz que le taux de couverture est de 19 jours, mais des mesures sont en cours parce que nous avons aussi des stocks dans les ports et des commandes qui sont en cours qui doivent venir s'ajouter aux stocks disponibles sur le marché national.
Les consommateurs avaient leur représentant dans la délégation qui a fait le tour des marchés. Badou Sambounou, président du Rede Coma.
Ça m'a permis de voir que vraiment il y a suffisamment de stocks pour des mois. Donc, or, on est à 15 jours du mois de carême et plus un mois, ça fait 45 jours, alors que ce que nous avons vu, c'est pour des mois. Donc, c'est pour dire qu'il ne doit pas avoir de rupture de stock. Et si jamais il y a rupture de stock, c'est une anomalie, il faut dénoncer. On a entendu le directeur du commerce aussi par rapport au prix, que le gouvernement veillera à ce que les prix soient contenus. Et là aussi, lorsque les gens vont le constater, ils doivent dénoncer.
Le déficit de riz constaté sera comblé par les stocks de commerçants qui se trouvent dans les ports. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et voilà, point final à ce numéro du Monde aujourd'hui. Anna Albertson a dirigé la mise en onde. Charles Hall a assuré la partie technique. Depuis Washington, c'était Jacques Aristide au micro. Merci de votre fidélité. Très bon début de semaine à l'écoute de VOA Afrique. Rendez-vous dans une heure. Take care.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.